je voulais suggérer une idée simple, c'est que dans les sciences sociales, comme disait Marcel Mauss, les anthropologues, les sociologues, les ethnographes étudient la physiologie des systèmes de représentation. Et la question pour moi qui se pose, c'est quel rapport entre la physiologie dont nous venons de parler et la physiologie des systèmes de représentation ? Je donne un des enjeux très simple, la complexité des structures spatiales, c'est très facile à montrer quand on analyse les structures, enfin les structures de représentation de l'espace chez les agents, dans leurs actions, etc., etc., du point de vue d'une analyse que font, par exemple, des sociologues ou, par exemple, des gens qui travaillent sur la mémoire collective ou des choses comme ça. Et simplement, souvent, je trouve que dans la manière dont on représente l'espace, dans l'expérimentation neurologique, on a une sorte de représentation assez simplifiée, je dirais, de l'espace face auquel le sujet se trouve, alors qu'un sociologue saurait suggérer que cet espace, il est justement, multiple, assez complexe. Et par exemple, ce qui a été dit, et j'étais très heureux de l'entendre, sur les degrés de proximité, les différents espaces autour du centre et les cercles successifs, c'est du Goffman. C'est-à-dire, je suis désolé, mais Goffman le dit, qui est un interactionniste, qui n'analyse absolument pas la neurologie, qui analyse l'interaction mutuelle, etc. Mais la distance à l'autre et dans le rapport entre l'identité personnelle et l'identité sociale, il y a des analyses très très solides là-dessus qui ne portent pas du tout sur la physiologie neurologique, mais sur la structure des systèmes de représentation. Et je pense que ce que nous avons à faire, c'est articuler les deux de manière très expérimentale. C'est pas de la tarte, parce que justement, comme vous l'avez très bien dit sur entre empathie et sympathie, il y a de l'histoire derrière tout ça, et c'est assez compliqué. Deux exemples pour suggérer que quand même on tient le bon bout. Avec une théorie de l'empathie ou de la sympathie, je vous signale qu'on construit une théorie de l'économie politique. C'est ce qu'a fait Adam Smith. Donc, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Deuxièmement, la question du point de vue égocentré, c'est la géographie de l'armée romaine. Les représentations du monde, les historiens de la géographie montrent ça. C'est-à-dire que quand on voit la narration des progressions de l'armée romaine dans les textes, leur représentation, c'est d'un point de vue égocentré. Il n'y a jamais de point de vue d'au-dessus, parce que l'au-dessus n'existe pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une historicité de l'acquisition d'un point de vue qui ne soit pas égocentré. Et là, ça serait très intéressant d'articuler ça justement avec des enquêtes sur l'histoire de la représentation de l'espace. Et y a vraiment c'est une mine d'or, parce que là, y a plein de choses à faire. Donc, je dis ça juste pour faire transition, pour dire qu'il y a vraiment un terrain de discussion qu'il faut approfondir. Et je passe tout de suite, je vous passe le micro, puisque c'est vous qui dirigez la discussion. Et merci.
I'm going to speak in English because we said that we would do that for this session. And I'm going to speak very little, as I told Florence Weber, that without the papers, as I am not a neuroscientist and I'm not fluent in that way of thinking, I don't have that much to say. I speak as a naive person. So I'm just going to make two or three points and then leave it to everyone else. And I just want to segue on what you told us. I was also thinking of the perspective in art and architecture from the Renaissance to now and so forth, where we see this kind of complexification of the evolution of space. And I find all of this research, I'm sure we all do, absolutely fascinating. And qualitative jumps we have made in the past few years. I'm more interested in pathology as a social question. So the first thing that strikes me, and this is sort of béaba, as we say in French, is kind of simplistic, but there is an issue of language, because as anthropologists and sociologists, by social we don't mean the same thing. We're not talking about a dyad. We're not talking about that level. That we have a difference of scale, but we have also a difference of context, because by social we are also including norms affects in a shared way and so forth. So, and I think that with social neurosciences, and just a nod to Professor Genereau, who is deceased and who was really a pioneer in this area, not just in France, but all over the world. I mean, for international neurosciences. But, you know, we, and Alain Ehrenberg and I were in dialogue with him, and you know, we included, you know, a wonderful piece by him, early piece on social neurosciences in one of our books. But it's very clear to us that we do not mean the same thing by social. And I think that's where our dialogue with the neurosciences could begin. Now, a cognitivist anthropologist like Dan Sperber is looking at a different level. So it wouldn't, you know, but as a social anthropologist, that's what I would say. From a point of view of pathology, and here I'm sort of shifting gears a little bit. I think it's very interesting that Professor Berthoz brought up this issue of what he calls transnosology. Is that what you said? Because as most of you know, today in nosological revisions, and I'm talking about the debates around, I'm not talking about the DSM-5 and the future ICD-11, but rather about the debates around them. And there really is this issue about whether we should be talking about schizophrenia or depression. And the neuroscientists, and I cite Steve Hyman because I think he's a wonderful example of, he's a psychiatrist, but a neuroscientifically oriented one who is very much conversant with social philosophy of science and social sciences, and he's the first to say that we, with very few exceptions, and even then the social scientists would argue otherwise, and those exceptions being particularly reward system and addiction, you know, we're so far from being able to make any kind of relationship between what we, either in common sense language, or even psychiatrists mean by terms like what we're referring to in terms like schizophrenia. And that is why you have psychiatrists like Jim van Os in the Netherlands, who is talking about, and this is where I was very interested by Professor Berthoz's comments, who is talking about we need to really be moving towards a dimensional understanding. Is there really such a thing as schizophrenia, or are people whom we see as suffering from schizophrenia who are very heterogeneous, even though there are core, you know, they're core areas, but you know, the more we move in genetics and the more we move in neuroscience, we're not talking about the same thing. We're talking about one aspect. So that is, you know, that does not call into question the neuroscientific research and, you know, these fascinating results which we have today. And, you know, I find social neurosciences very interesting. I'm fascinated by this research on spatiality, spatial temporal orientation, and so forth. Except, again, I'm not, when the neuroscientists talk about social, I as an anthropologist don't mean the same thing. But to come to pathology, or even to come to suffering, or even to come to differentness, and there, this is why I find it's such a good idea, or such a good idea to put together this panel with an anthropologist also on the panel. We have to shift scale, it seems to me. We have to shift from the laboratory to everyday life, and that is where Emily Martin is bringing us. And one does not say, you know, no one is saying you can't do this research, you can't do the other. What we're talking about is, can we find a common language to traffic between these two arenas or these two universes of discourse, you know, just to use a sort of broad term. What I found it also interesting, we've talked about the historicity of spatial, spatial perspective, but what I found also interesting is another historicity when Emily was speaking, when she was talking about these irrational experiences which are part of the everyday. The founder of American psychology, William James, was very sensitive to this, and he wrote a book I think it's called marginal experiences. It's not one. It's not very well read, but I have the exact somewhere in my brain. I have the exact title, but it's margins of experience or something like that. And he worked very much on these sort of everyday, what he called unusual. He didn't really use the term irrational, but it really was very much what Emily is talking about. And it was interesting how at that time, you know, he really, and many people in the Harvard psychology department in this is the early 1900s, around him really believed this was important to you know, have this much broader understanding of human behavior rather than this categorization between, you know, careful lines of not just of normal and abnormal, but what it comes down to is self and other, and that other often being not even the same form of, well, very much being, and this is more from a philosophical point of view, but a pragmatic one, not being the same form of life as the self. And I don't mean that in terms of empathy, I mean that in terms of, well, the one who is able to empathize in the normative way, and, you know, we leave that out, you know, there is a normative description, and the one who is not able to. And where William James's research went, interestingly enough, is where it carried through was in the concept of mental health. Now, we throw around the concept of mental health a lot because it really changes over time. What Adolf Meyer and Clifford Beers, who is the first well-known, because there were others before, but the first well-known person, individual in the West, as far as I know, living under the description in fact, it was manic depression with a lot of psychotic dimension to it. You know, the way he defined mental health, he worked with Adolf Meyer, and by the way, his book, The Mind That A Mind That Found Itself, about his recovery, is out of print, but I discovered that there is a French translation with an introduction by André Malraux, and I've never been able to get my hands on it. I hope the Bibliothèque Nationale, or whatever we call it now, has it, but anyway. But, you know, mental health then becomes other things. At the beginning of the World Health Organization, mental health is really a concept of ability to live harmoniously with others. That is what Brock Chisholm, the first director of the WHO, who is a psychiatrist, that's what he means by it. And then it takes on other meanings. It can mean well-being. It can mean capacity for performance, for coping. But in the continuum notion of mental health, which existed until very recently, there was this idea that we don't have to make this separation between what Emily is calling irrational, the irrational in the everyday, the experiences that so many of us can, you know, have experienced. And by the way, when I've sat in rooms with French psychiatrists and people living under this description of schizophrenia and trainers who train in how to handle your voices, the question is always asked, how many of you have heard voices? And every single person in the room, psychiatrist, anthropologist, and person under the description of schizophrenia raises their hand. So, you know, I think, you know, from a sociological point of view, what we're also talking about is, you know, why we're drawing the divisions that we draw. You know, why is irrational not allowed to be part of the everyday? Which, of course, does not eliminate the tremendous problem that most of us, I think, in this room are concerned with, which is the social suffering of people with these kinds of conditions in what we do. You know, where we are, what we can do about that. And my last question for both Monsieur Georgeoff and Dr. Berthos was, in fact, you know, how far along are we in translation of these kinds of findings into something that is useful? I would assume it's not going to be useful for categories we use across the board, but maybe it is useful for certain people whom we call people with schizophrenia or, you know, with autism and so forth, and how far along are we in the translation of these kinds of findings? And this is the naive question, and I should be very embarrassed to ask it, but how plastic are these brain, I guess one would say functions? Voilà.
Alors, on va prendre une série de questions, je propose, directement liées aux exposés. A set of questions which are related to the various talks. Oui, venez, venez, venez ici. And then we shall take a second range of questions, more open, because obviously the idea was to meet with the general discussion of this morning. Donc, on va faire après un deuxième temps de questions plus ouvert pour rejoindre des éléments de discussion abordés ce matin.
Oui, je suis désolée de prendre la parole la première, mais je voulais tout de même faire deux remarques pour lier ce qui avait été dit ce matin et ce qui a été dit cet après-midi. Ma première impression, mais je voudrais une confirmation de la part des neurosciences parce que, et des sociologues, ma première impression, c'est qu'on est très loin du modèle de l'individu rationnel, isolé, qu'on a quitté le modèle de l'homo clausus, dont parlait Norbert Elias, qui est toujours le modèle des économistes, et qu'en arrivant vers un modèle de l'intersubjectivité, on fait un premier pas vers le modèle plus général de l'interdépendance, qui est le modèle de base, on va dire, d'une certaine sociologie et anthropologie. Donc ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, puisque ce matin, il a été question de la cohérence de l'individu. Quand Alain Berthaus parle de cohérence du corps ou de cohérence du soi, c'est une demande de précision, en fait. J'ai l'impression que c'est une cohérence à un moment donné et pas une cohérence intertemporelle. Parce que de notre point de vue, en économie, par exemple, le modèle de base, c'est la stabilité des préférences, c'est-à-dire la cohérence intertemporelle du soi, ce qui pose la question, les questions qu'on a vues ce matin sur le droit, c'est-à-dire l'idée qu'on aurait une personnalité unifiée dans tous les secteurs de la vie sociale d'une part, et surtout dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne serait pas capable de changer du tout au tout selon les contextes et selon les moments de l'existence. Donc voilà, c'est mes deux remarques. Et je veux insister sur ce qu'a dit Anne au début, qui est très très important, qui est la question du changement d'échelle. C'est-à-dire que pour nous, le dialogue interdisciplinaire, c'est d'abord de vérifier à quelle échelle on est. Et si on n'est pas capable de savoir à quelle échelle on est, ben on risque de rien comprendre à ce qu'on est en train de faire. Donc voilà.
Tout à l'heure, il a été remarqué que la schizophrénie, est-ce que ça existe ? Parce qu'en fait, il y a tellement de manifestations différentes chez les différents schizophrènes qu'effectivement, on peut se demander si ça existe. De la même façon, ou inversement, il y a des personnes qui présentent à la fois les symptômes, des manifestations propres aux schizophrènes et aux bipolaires, par exemple. On vient de dire que les problèmes de communication, d'empathie, de sympathie touchent essentiellement les autistes et les schizophrènes. Alors, il y a quand même une classification à faire, mais elle est très complexe. Et donc, pour la recherche, c'est d'autant plus compliqué. Il y a tellement de choses à étudier. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors avec cette classification ou cette non-classification, à votre avis ?
Bonjour. En fait, aujourd'hui, Émilie Martin nous a parlé de la maniaco-dépression et elle la décrit dans son livre comme une maladie de la sociabilité, en fait, de l'hyposociabilité au moment de la dépression et de l'hypersociabilité au moment de la crise maniaque ou de la phase maniaque. Et j'ai été frappé par le fait que les deux exposés aujourd'hui en cognition sociale n'ont pas du tout parlé, n'ont jamais utiliser, je crois, hein, ce référentiel-là. Vous avez parlé de la schizophrénie, de l'autisme notamment, et d'autres troubles comme l'agoraphobie, comme des troubles de la sociabilité finalement. Enfin, je ne sais pas si c'est les termes que vous utiliseriez, mais vous n'avez jamais parlé de la maniaco-dépression, et donc ça m'étonnait en fait, cette impasse, ou ce silence sur ce sujet qui contraste avec le fait qu'au contraire, c'est ce que Émilie Martin met en avant dans son étude anthropologique.
C'est pour le professeur Berthaus, c'est peut-être un peu à part, mais là, quand vous nous faites faire cet exercice, la majorité des gens se sont trompés, c'est ça, et ont basculé, voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, vous savez, il y a de nombreuses, trop nombreuses erreurs de côté dans les actes chirurgicaux où il faut opérer le côté droit, et en fait, le chirurgien opère son côté droit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une excuse neurophysiologique là ? Est-ce que vous pouvez pas venir à leur secours ? Et l'autre, enfin tout le monde se trompe, l'infirmière, tout le monde se trompe, tout le monde. Donc, il faudrait mettre des anti-miroirs peut-être. Et l'autre chose, donc comment expliquez-vous que vous ayez une opinion tellement différente que les autres sur la zone frontière empathie-sympathie ? Est-ce que c'est votre propre nature hyper empathique ou... Et est-ce que vous ne pensez pas que les pervers mentaux, justement, ont une empathie inversée, des capacités anti-empathiques ? C'est une pathologie de la zone d'empathie. C'est toujours semi-ironique.
Thank you for allowing me to be first. Well, I can only say that the two speakers on neuroscience and its recent findings are equally as fascinating to me as to the other anthropologists. we have a rather complex relationship with these other fields because we are actually often not talking about the same thing at all. And without meaning any disrespect for what is being talked about in neuroscience, I think it's behooves us anthropologists, sociologists, to insist that there are levels of human life, the social and cultural levels that require different kinds of understanding. It's not to undercut those understandings, but to insist that these other ones are also very important. The reason it's important to insist is that scientists themselves are not responsible for this, but findings from the neurosciences have a tendency to go out into public culture and create phenomena that we might not wish to happen. Beliefs about the brain being different in different people, beliefs about the brain not being able to be changed once it's got problems, and in general, the public culture can take neuroscience findings, as fascinating as they are, and use them to discount the social. So in questions of criminality, of sexuality, of mental problems, it's hugely important to maintain the validity, veracity, and importance of historical accounts, of anthropological accounts. So I would say that both Anne and Florence saying that it's a difference of scale is a start to, is a very important start in putting a finger on what is different. But I also think that we have to ask, where are these phenomena that the neuroscientists wish to understand made? Where are they made? Are they made in the brain only? They need brains, no question about it. If I didn't have a brain, nothing would be happening up here. But can you understand something like empathy or sympathy with however complex it gets, with just findings from experimental situations where output to the brain is what is being captured? So, and where do you go? How do I make the case? Well, I would first of all say that empathy and sympathy were brilliantly, beautifully detailed in the two talks. The meanings attached to them, the differences between them. But though that it was a beautifully detailed differentiation, I immediately thought, well, okay, that's very pertinent for France, perhaps for Holland, perhaps for Germany and the United States, very on the mark. But what about if we moved to another country? What about if we moved to Bali, which Clifford Geertz has written about their emotions and what they seek to be as emotional people? And in Bali, the goal is not empathy, as so described as a kind of European, Euro-American, oh, sorry, phenomenon, sorry. This introduces a whole other topic.
Sorry.
That's okay, no problem. So the Balinese seek to be cool, they seek to be restrained, they seek to be to be in equilibrium. They describe the ideal state of being as a kind of dance, a dancer poised. They are this worldly but removed. And this is all, it would require, and it required Clifford Geertz many, many, many pages to describe what this way of being, this way of life was like. But it does not get captured by empathy, which is a rather specific, comparatively different kind of phenomenon. So I just think that we need to introduce the complexity of comparative cultural and historical concepts, and then we could ask further questions about what Balinese would do in an experimental setting, and we would have to contend with that. That might be help our findings have more complexity. But the bottom line is, you could not find empathy, or what the Balinese call calm restraint, in the laboratory. You could only find it in the marketplace, the family, the police station, the court, the political court, or wherever you might need to go to find people interacting with each other. And one last thing I would say is that I am now doing research in psychological, cognitive psychological laboratories with experiments of incredibly interesting experiments of the sort we just heard described. And I'll just say one observation. The data is collected by catching brain signals and by asking people questions that they register on a computer screen. But I'm there the whole time in the experimental room when all of this is going on. And after the experiment is over, people have so much to say about the experiment that they just went through. They liked this, they didn't like that, they were frustrated by this, they thought that was fascinating, they thought that was stupid, on and on and on and on. All that mass of social output is ignored. And that I understand why that's not the point of the experiment, but it's happening in the experimental setting. So we have very different disciplines, don't we? We have very, very different disciplines. And I only want to preserve a place for both of them to stand.
Juste avant de passer la parole, je suis tout à fait d'accord, mais je ne crois pas que, enfin, même s'il y a des exposés un peu imbéciles ici et là, à l'extérieur, face à la presse, etc., je ne crois pas que l'enjeu, ça soit l'impérialisme. Et d'ailleurs, c'est des choses dont on avait discuté il y a quelques années déjà, dans des circonstances institutionnelles. C'est pas un impérialisme, on n'en est plus là, on n'en est plus là du tout, du tout. Alors évidemment, il y a toujours des effets de manche, etc. Par contre, il y a des leviers de l'anthropologie, de la sociologie, qui peuvent être articulés avec... la question, pour le dire de manière durkheimienne, du substrat neurologique. Je donne un exemple. Tout ce qui touche à l'inhibition, à l'apprentissage, on sait très bien analyser ça d'un point de vue, disons, d'une sociologie, de l'acquisition, dans les interactions, etc., etc. Tout ce que sont les questions d'anticipation, d'attente, Florence en a parlé, etc. Or, on a vu ces thèmes apparaître dans les deux exposés de neurologiques. Et là, moi, je plaide pour, tout simplement, une articulation expérimentale large qui intègre la prise en compte expérimentale, je dirais complète, que vous demandez, de la situation peut-être plus restreinte que ferait le biologiste, de telle sorte que l'on puisse, par exemple, intégrer des formes de contrôle et en les analysant par des modalités différentes, en distinguant parce que ce qui peut être mis en jeu d'une manière ou d'une autre, révélé par tel type d'expérience ou tel autre, et on se rendra compte, je pense, que des choses que souvent dans les sciences sociales on a vues extérieures au sujet engagées, elles sont plus intérieures. Il y a des choses qu'on a vues très, qu'on a cru très intérieures dans la neurologie, dans la psychologie, elles sont plutôt plus extérieures. Ça, j'en suis profondément convaincu. C'est ça qui est en jeu pour moi. C'est la balance entre l'intériorité et l'extériorité, et l'élément nouveau dans ce qui s'appelle effectivement cognition sociale. Le mot social ne me plaît pas tel qu'il est utilisé là, mais c'est qu'il y a, et ça rejoint tout à fait ce que dit Florence, il y a enfin un espace de travail. Enfin, on a un modèle d'interaction qui nous permet, nous, de réarticuler des choses. Alors après, il faut discuter. Hein. Il faut discuter, il y a du travail, ça ne va pas se faire de manière tendre, j'en suis convaincu. Mais il y a un espace de travail, c'est ça qui m'intéresse. Il y a deux classes de questions que je n'ai pas vu discuter et qui, pour moi, sont très importantes. Un, la question de... tout ça est fondé sur des questions de prévisibilité, de régularité. Mais la plupart des phénomènes sont imprévisibles, sont irréguliers. Or, il y a un apprentissage social, et sans doute neurologique, de la randomness. Et je pense qu'on approfondirait beaucoup en allant dans ce sens-là. Parce que je suis convaincu qu'une des grandes erreurs expérimentales que nous faisons toutes, c'est de mettre les gens en situation stable et prévisible. Alors qu'en fait, la plupart des phénomènes d'apprentissage, pour moi, sont acquis par écart à la prévisibilité. Ça, je pourrais argumenter ça d'un point de vue, disons, sociologique rigoriste. Deuxième point, je crois que les neurologues, alors ça c'est une question technique de curiosité, s'intéressent à la plasticité neuronale. Donc la question de la localisation est en jeu. Les fonctions ne sont pas toujours localisées au même endroit s'il y a la plasticité neuronale. Comment les neurologues, comment vous traitez ce problème de ce que dans d'autres textes j'ai vu décrit comme la mobilité au fond des capacités neuronales. Est-ce que c'est un problème important, secondaire ?
Alors je vais répondre aux 10. Alors avec la première question de Florence Weber, très rapidement, intro, mais en deux mots. Sur l'individu restant isolé, bon, Florence, c'est très très clair. 98% des expériences données expérimentales en psychologie, neurosciences, etc., ont été sur le sujet solipsiste. La vision, c'est la vision d'un sujet, le mouvement, c'est le mouvement, etc. Il n'y a pratiquement presque rien sur la coopérativité, même dans le domaine du mouvement, qui est le mien, très peu de choses. Très peu de choses. Or, il y a aujourd'hui une explosion, en France, une explosion ce qui a été appelé une neurosciences sociales. C'est-à-dire maintenant une explosion dans tous les domaines, la perception, même la mémoire, etc., sur des études dans lesquelles on met 2 personnes, 3 personnes, etc. Mais la science se fait avec des mesures. Et c'est pas évident de mettre 2 personnes ensemble dans un même IRM. Bon, il y a un endroit en France, actuellement à Salpêtrière, où on fait 2 EEG en même temps. C'est ce que fait Jacqueline Nadel sur l'autisme. Donc il y a un problème, c'est que pour faire de l'interaction, de la coopération, Nathalie Sebans et Knoblich montrent des manips sur la coopération dans des tâches qui nous intéressent aussi sur le plan du travail, le problème du travail. Donc il y a une explosion aujourd'hui d'une nouvelle neuroscience psycho-expé, psychophysique, de l'interaction entre 2 personnes, etc. Il y a des gens qui ont 2 singes avec des électrodes en même temps, mais c'est pas évident, c'est déjà dur d'avoir 1 singe avec des électrodes, c'est pas évident de faire travailler ensemble 2 singes avec chacun ses électrodes. Vous voyez, ça fait partie des progrès progressifs de la science. En même temps, il faut avoir les théories, et c'est là où les théories, parce que l'expérimentation de physiologie neurosciences, elle est forcément réductrice, c'est là où l'apport théorique est important. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il faut, comme on essaye de le faire, y compris aujourd'hui, il faut faire des interactions interdisciplinaires, c'est qu'il faut des apports. Par exemple, la raison pour laquelle les Anglais ont été tellement à l'avance sur l'étude de fonctions cognitives très avancées, les règles morales, etc., c'est parce qu'il n'y avait pas en Angleterre le fossé qu'il y a eu en France entre la psychologie, qui refusaient d'avoir un contact avec les neurosciences, et les neurosciences, parce que les Anglais sont plus pragmatiques, il y a une tradition de proximité. Même chose aux États-Unis, les premiers travaux de Goldman Rakish sur la mémoire chez le singe, la mémoire ont été faits parce qu'il y avait des psychologues qui ont travaillé avec eux. Ici, il y avait, rappelez-vous, moi, quand je suis entré au Collège de France, malgré Vallon et Pierron, qui étaient des physiologistes en même temps que des psychologues, l'école de Fraisse a interdit aux jeunes je le dis, il faut que les jeunes le sachent. De publier en anglais et deux, d'avoir le moindre contact avec les médecins et les gens de neurosciences. Comme disait un, je ne dirais pas son nom, quelqu'un ici, dans cette même salle, il y a 8 ans, on avait un truc sur la géométrie. Alors, il y a Daniel Handler qui était là, moi j'étais là, et puis il y a une question qui a été posée sur la géométrie par quelqu'un dans la salle, et Daniel a dit bah, ça c'est du neuro, il n'y a qu'à demander à Berthoz. Et ce monsieur qui était un mathématicien extrêmement brillant a dit Berthoz, la cervelle, jamais, c'est ce que j'achète chez mon boucher. Voilà. Alors depuis on a beaucoup progressé grâce au contact entre les mathématiciens et les gens des neurosciences sur la compréhension des géométries du cerveau. On sait que le cerveau ne travaille pas uniquement en géométrie euclidienne, mais qu'une grande partie de tout ce qui a été fait est à faire, etc. Première question. Donc il y a une ouverture aujourd'hui, mais il faut le temps. Et ici, dans le labo d'Étienne Quéclin à l'École normale supérieure, il y a des gens comme Julie Grèce, dans le labo de Dupoux, des gens qui travaillent sur ces questions-là. Il y a des philosophes qui travaillent avec d'autres. Deuxième question, le soi. Alors oui, effectivement, ce que j'ai dit sur le soi, sur la cohérence, c'est la constitution du corps propre maintenant. Mais en même temps, il se trouve que je travaille beaucoup. J'ai la chance de travailler avec Pascal Piolino, qui est une élève de stage, qui travaille sur la mémoire épisodique, la mémoire autobiographique. Et elle a fait de nombreux papiers avec toute une communauté sur ce soi dans ce que même les neuroscientifiques appellent aujourd'hui le voyage mental. C'est-à-dire le soi qui n'est pas le soi de maintenant là, mais le soi qui met en rapport la mémoire du passé, l'identité transitoire sous toutes ses formes et la prédiction du futur. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on s'est mis à coopérer ensemble pour essayer d'introduire cette dimension au cours de la vie. Et pour le moment, c'est pas de l'anthropologie sociale, mais en tout cas, c'est déjà de la psychologie qui met en perspective le vécu du soi dans des tâches de navigation ou qui essaye. Et puis, il y a des travaux de Daniel Schachter à Harvard actuellement, qui travaille sur les scénarios de vie, sur le voyage mental, et qui essaye justement de dépasser ce strict cadre de l'instant, comme d'ailleurs Eleanor Maguire aussi à Londres. Troisième question, le changement d'échelle. Oui, c'est évident, mais ça rejoint à ce que vous disiez, madame. C'est pas seulement un changement d'échelle, c'est un changement de nature complet. Donc ça nous en avons conscience. Bon. Mais un de mes maîtres disait « I can only teach you one thing at a time ». Mais je dirais à la limite parce qu'il y a des dimensions différentes, raisons de plus pour travailler ensemble. Moi, j'ai fait un livre avec Jean-Luc Petit, philosophe, un fanatique spécialiste de Husserl. Eh bien, ça a été très fructueux. Nous avons travaillé ensemble avec Jean-Luc Petit de la façon suivante. Il connaissait très bien la théorie des kinesthèses de Husserl, en allemand. Donc il venait dans mon bureau, ça a duré 2 ans, une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, avec 2 pages de la théorie des kinesthèses de Husserl qui projetait sur un écran. On lisait ça ensemble, et moi je disais, ah tiens, ça c'est intéressant. Il se trouve que par exemple, Husserl avait prédit les neurones miroirs. Bon, d'ailleurs, ça a été... Et dans d'autres, ce qu'on cherchait, c'était si ce philosophe avait dit des choses qui permettaient éventuellement de déclencher des idées et des hypothèses auxquelles nous, les physiologistes, on n'aurait pas pensé. Voilà. Donc on aurait pu en faire un livre de dialogue. Et Odile Jacob, quand elle a vu un peu comme le change Ricoeur ou comme change Cône, et Odile Jacob, quand on lui a présenté ce truc de dialogue, a dit, écoutez, non, ça suffit, les livres de dialogue. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le ensemble. Et à ce moment-là, on a retravaillé pendant 2 ans, ensemble, en reprenant tout ça et en essayant d'en faire un livre dans lequel on trouvait un langage commun. Et ça n'a pas débouché sur des expériences, mais ça a débouché sur une espèce de travail intellectuel qui est celui qu'on peut faire et que moi j'ai eu la chance de faire d'une certaine façon avec Florence Weber autour de la thèse sur le rugby des Samoans de Julien Clément. Avec Madame Picon-Valin, j'ai co-dirigé une thèse, c'est du spécialiste du théâtre russe, sur le théâtre de Meyerhold, qui a été fait par une jeune danseuse brésilienne qui malheureusement est décédée récemment, etc. Donc il y a ce travail intellectuel, si vous voulez, qu'on peut faire dans des projets comme ça, c'est sérieux, autour de jeunes qui acceptent éventuellement de circuler, de se confronter à nos deux disciplines. Et moi, je pense que ça passe beaucoup en ce moment. Là, j'ai un jeune géographe qui est venu me voir et qui voudrait refonder une géographie à partir de l'homme, etc. C'est pas facile, mais on peut le faire. Autre question sur la schizophrénie. Oui, bah, la question que vous avez posée, madame, ça relie tout ce que, c'est peut-être vous qui avez posé ça dans la salle. Bah, c'est tout le problème de la comorbidité. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on voit apparaître tous ces symptômes qui sont voisins. Alors, pour moi, mon schéma d'interprétation, très modestement, c'est que on sait qu'une part une partie de ces maladies sont génétiques, mais on sait en même temps que ces gènes ont des cibles multiples. Et deuxièmement, on sait que ça ne suffit pas les gènes, mais il y a l'épigénèse. Vous savez qu'il y a une nouvelle chaire au Collège de France sur l'épigénèse. Ça va être absolument passionnant. C'est Edith Hurd qui la tient. On sait que non seulement il y a une multitude de gènes, mais il y a en même temps des effets environnementaux. Là, on est en train de faire même presque un retour du lamarckisme d'une certaine façon, sur la modulation par les early, par les expériences très précoces, sur l'expression de ces gènes. Donc tous ces phénomènes vont donner des lésions fonctionnelles, ou même des libérations d'ailleurs, c'est ce que pense Durgev aussi, dans toute une série d'aires du cerveau qui chacune va être impliquée dans ces processus. Donc qu'on trouve des traits communs à différentes maladies et qu'il faille, comme vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, revoir ces catégories. Oui, mais en même temps, c'est pas mauvais d'avoir à un moment donné des typologies. Il faut pas y être enfermé. Ça va ? Je suis un peu long, mais c'est vous qui avez voulu poser des questions. Hein. Alors, je sais pas, pourquoi ne pas en parler ? Ah oui, pourquoi ne pas parler de maniaco-dépressif ? Mais d'abord, un, je suis pas médecin. Et deux, c'est une très belle question. Il se trouve que c'est un peu dans les milieux dans lesquels on est actuellement, l'autisme, la schizophrénie, Alzheimer, c'est le modèle. Mais vous êtes médecin ?
Est-ce que je peux dire juste un mot ?
On peut travailler ensemble ?
J'ai traduit le livre d'Émilie Martin, en fait.
Oui.
Et une des dimensions du livre, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'Amérique, la culture américaine s'est emparée de la maniaco-dépression.
Oui.
Et donc je me suis juste demandé si c'était quelque chose très important aux États-Unis, peut-être qu'en France, ça a été moins...
Faisons une petite réunion. Un jour, on fait un déjeuner au collège avec un psychiatre ou deux et on en discute. Ben, c'est fait pour ça, des journées comme ça. Hein, oui, avec plaisir. Ah, oui. Moi, j'ai fait de la psychiatrie quand j'étais à l'école des mines, vous voyez, quand j'étais autrefois. J'ai séché les cours de haveuse pour aller... J'ai vu des patients comme ça. La différence... Alors, si, un petit mot quand même sur la culture. Oui, madame, vous avez raison. Il est fondamental, pas seulement de voir ce qui se passe chez les gens de Bali, mais de regarder les aspects transculturels. Et simplement, là, c'est ce qu'on fait dans nos domaines. Meller, Dehan ont essayé de faire sur le langage avec les Japonais, etc. Là, c'est un problème de méthodologie et de faire des coopérations internationales. Alors, il y a des grands progrès, des grands projets aujourd'hui. Par exemple, moi, je suis associé à un projet sur la calligraphie chinoise. J'y fais rien, d'ailleurs. C'est mené par un philosophe, Pelletier, qui est un spécialiste de la mimésis, qui s'intéresse à ça. Il y a un Chinois calligraphe qui est en même temps le directeur général, le directeur du plus grand journal chinois, à Paris. Il y a une équipe de la Salpêtrière d'IRM fonctionnelle. Et le projet, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on éprouve des émotions à partir de la calligraphie. Donc il y a des tentatives comme ça d'aller regarder des choses avec des... Mais c'est un des grands manques qu'on a aujourd'hui, ces études transculturelles. C'est vrai. Ceci dit, pour le réel, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que Simon Lambret, qui était ce jeune normalien devenu psychiatre, il est allé faire une manip sur les hommes et les femmes dans un supermarché. Donc il est allé vraiment au moins sur le terrain. Bon, c'est pas le labo. Voilà, et sur les deux dernières choses, la prévisibilité, randomness. Alors ça aussi, c'est une chose qui est très nouvelle. C'est vrai que depuis 30 ans, 40 ans, on travaille dans un cadre déterministe. D'abord, on a travaillé 98% des papiers qu'on nous a obligés de faire, c'était des papiers sur l'homme moyen ou le sujet moyen. Il fallait avoir 20-30 sujets et avoir un sujet moyen. Et c'est grâce à l'IRM en single subject que maintenant on s'aperçoit que chacun des gens fait ça avec des... On retrouve la vicariance, thème sur lequel je travaille beaucoup et que j'ai abordé dans mon dernier cours au collège d'ailleurs. Et deuxièmement, ce qui est très nouveau, c'est l'envahissement par la probabilité. Donc aujourd'hui, moi dans mon labo, le virus est total. Tout le monde est bayésien. Voilà. Le modèle, c'est la probabilité bayésienne. Et ça, c'est intéressant parce que ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça matérialise le fait que, comme vous l'avez dit, on travaille dans l'incertitude. Le cerveau est un parieur. Et deuxièmement, les modèles bayésiens, ils ont un tel succès, c'est parce qu'ils mettent en relation les connaissances passées avec la prédiction du futur. Donc on revient à cette espèce de dimension, pas instantanée, mais de... Donc il y a aujourd'hui une formidable... Stanislas Dehaene fait son cours au collège cette année sur le bayésien. Moi, dans mon labo, tout le monde est devenu bayésien. C'est pire que la grippe. Mais le problème de fond important, c'est ça, c'est l'incertitude. Et toutes les manips qu'on fait, que j'ai montrées, sont déterministes. Et donc on va essayer de faire ça. Voilà. Et puis la plasticité, ça... On pourrait en reparler longuement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'en parlais à déjeuner avec Turgeff, et un des résultats de cette journée, c'est qu'on va sans doute faire déjà un colloque l'an prochain ensemble, un workshop. C'est sur l'idée que, dans le cas de lésions ou de choses comme ça, le cerveau ne cherche pas nécessairement à réparer les structures lésées, mais utilise la richesse de ses possibilités pour construire des solutions complètement nouvelles. Ce sur quoi, moi, je travaille beaucoup. Donc le problème n'est pas seulement la plasticité, le problème qui est associé aux questions dites de rémédiation par rapport à réhabilitation, c'est d'aider le cerveau à trouver des solutions complètement nouvelles éventuellement, avec le répertoire de toutes ses capacités. Et ça induit des méthodes de rééducation, d'éducation complètement différentes. Et ça serait intéressant de voir dans quelle mesure la dimension collective, anthropologique collective et culturelle aussi, peut aider à créer un contexte culturel, social, etc., qui aide le cerveau de chacun à trouver des solutions qui n'aident pas nécessairement, ne serait-ce par l'imitation, des choses comme ça.